démocratie fragilisée et expérience totalitaire dans l'Europe de l'entre-deux-guerres. Cette leçon se développe en trois parties. Grand A, un monde neuf après la guerre. Grand B, les caractéristiques des régimes totalitaires. Grand C, l'expérience du Front populaire. Passons donc à la première partie, grand A, un monde neuf après la guerre. Cette partie se développe en deux sous-titres. Petit 1, le traité de paix de Versailles, un armistice. Petit 2, la Grande Dépression. Passons au petit 1, le traité de paix de Versailles, un armistice, voire vidéo. La carte de l'Europe est remaniée. Les pays présents ont signé le traité de Versailles, la Grande-Bretagne, la France, l'Italie, le Japon et les États-Unis. Le Japon et l'Italie quitteront les négociations par la suite. Sont exclus la Russie, l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie. L'Allemagne est condamnée à payer 32 milliards de dollars, soit aujourd'hui 393 milliards de dollars. Elle n'a plus le droit de lever une armée, seulement 100 000, ni d'occuper militairement les versants du Rhin. Elle renonce à ses colonies, ainsi que l'Alsace, ainsi que la Lorraine qui retournent à la France. Elle percevra ce traité non comme traité de paix, mais comme un diktat qu'Hitler s'empressera de dénoncer, lors de son accession au pouvoir. Ce traité est considéré comme l'une des causes de la Deuxième Guerre mondiale. Voir quelques extraits. Passons maintenant au deuxième sous-titre, la Grande Dépression, voire vidéo. Autre conséquence de la Première Guerre mondiale, le krach boursier de Wall Street, le 24 octobre 1929, quand 13 millions d'actions ont été mises en vente voire la vidéo. Le krach boursier expliqué. Cette crise financière entraîne une crise économique qui se décline en quatre étapes. Difficultés pour les banques et les entreprises. Ce qui entraîne des licenciements. Les licenciements vont entraîner l'augmentation du chômage. L'augmentation du chômage entraîne une baisse de la consommation. Qui provoque les difficultés des banques et des entreprises. C'est ce qu'on appelle le cercle vicieux. Cette crise provoque la montée des régimes totalitaires. L'avènement d'Hitler au pouvoir en Allemagne, puis la Seconde Guerre mondiale. Passons maintenant à la deuxième partie, grand B, les caractéristiques des régimes totalitaires. Cette partie se développe en trois sous-titres. Petit 1, trois caractéristiques du régime stalinien. Petit 2, le régime hitlérien. Petit 3, le pacte germano-soviétique. Voyons d'abord le petit 1, trois caractéristiques du régime stalinien. 1. Les trois caractéristiques du régime stalinien. Première caractéristique, une économie dirigée avec la collectivisation forcée de l'agriculture. L'État exproprie les koulaks et remplace les fermes, des propriétés privées, par le kolkhoz et des sovkhozes. Deuxième caractéristique, c'est un régime totalitaire car Staline est seul au pouvoir, chef de l'État et d'un parti unique, le Parti communiste. Un culte de la personnalité est organisé autour de la personne de Staline, appelée Batyushka. Il use de la propagande pour vanter les mérites de son régime. Il utilise la radio, la presse, le cinéma pour cela. Des organisations encadrent la totalité de la vie de tous les individus dans la société, jeunesse, femmes, ouvriers. Troisième caractéristique, elle, usage de la terreur. Une police politique, le NKVD, surveille la population. Toute contestation ou rébellion conduit à l'emprisonnement, au goulag à l'élimination. Les opposants politiques sont victimes de grands procès. La dictature stalinienne durera jusqu'à la mort du dictateur en 1953. Passons au petit 2, le régime hitlérien. Hitler accède au pouvoir en 1933 en prenant la tête du NSDAP, un parti ouvrier d'extrême droite. Son ascension est favorisée par la crise de 1929 et le mécontentement du peuple à propos du diktat du traité de Versailles. Il promet au peuple de combler les insuffisances de la République de Weimar, régime au pouvoir depuis la fin de la guerre. Identifions les trois caractéristiques du régime nazi. Première caractéristique, un régime totalitaire car un seul chef ou guide, Adolf Hitler. Il est appelé Führer. C'est un dictateur. Il cumule tous les pouvoirs, exécutif, législatif et judiciaire. Il dirige un parti unique, le parti nazi. Aucun autre parti n'est autorisé. Les opposants sont pourchassés, les communistes appelés aussi les spartakistes. Il est l'objet d'un culte de la personnalité, des affiches le représentent partout, le salut nazi est fait sur son passage. La propagande est utilisée pour inculquer ses idées au peuple. encadrement de la société, la population est encadrée par des organisations, comme les jeunesses hitlériennes par exemple, l'individu voit sa vie contrôlée en totalité depuis son enfance, jusqu'à la mort. L'économie est dirigée par l'État. Voir autre schéma expliquant le totalitarisme. Deuxième caractéristique, c'est un régime raciste, car une idéologie prétend que les Aryans sont une race supérieure, qui doit dominer le monde, et lutter contre les Juifs, une race dangereuse et inférieure. Troisième caractéristique, un régime antisémite, car une politique antisémite est mise en place dès 1935 avec les lois de Nuremberg. Les Juifs sont désormais considérés comme des étrangers et sont mis à l'écart de la société. Lors de la nuit de cristal, le 9 novembre 1938, des synagogues ainsi que des commerces juifs sont détruits et 30 000 juifs sont envoyés dans des camps de concentration. Passons maintenant au petit 3, le pacte germano-soviétique. Le 23 août 1939, le monde apprend avec stupéfaction la signature au Kremlin, à Moscou, d'un pacte germano-soviétique de non-agression. Ce pacte va provoquer la Deuxième Guerre mondiale. Enfin passons à la dernière partie de ce résumé. Grand C, l'expérience du Front populaire qui se développera en deux sous-titres. Petit 1, accession au pouvoir du Front populaire et ses différentes réformes. Petit 2, la montée des périls en Europe. Petit 1, accession au pouvoir du Front populaire et ses réformes. Suite à la crise de 1929 et à une manifestation des ligues fascistes d'extrême droite en 1934 qui veulent voir s'installer en France une dictature, les mouvements politiques et partis de gauche se rassemblent pour former le Front populaire pour le pain, la paix, la liberté. Son programme, lutter contre les effets de la crise économique et améliorer la condition des masses laborieuses, les travailleurs. Léon Blum, secrétaire général de la SFIO, sera le chef de ce rassemblement, regroupant aussi le PCF et les radicaux de gauche. Lors de leur élection, Blum devient président du Conseil, c'est-à-dire chef du gouvernement, en mai 1936. Une grève de soutien au nouveau gouvernement se déclare dans toute la France. Ce gouvernement sera à l'origine de réformes très importantes comme l'instauration des congés payés, la journée de travail de 8 heures et la reconnaissance du droit syndical. Dernier sous-titre, petit 2. La montée des périls. Voir les trois événements qui la symbolisent. Quand le Front populaire accède au pouvoir, l'Allemagne nazie est en pleine période de conquête de territoires occupés par des peuples allemands, l'Anschluss, annexion de l'Autriche, et plus tard, le démantèlement de la Tchécoslovaquie. L'Europe n'est plus en paix. On se demande, à qui le tour ? On assiste donc à une montée du péril nazi, car Hitler prépare le Troisième Reich, un empire regroupant des territoires sous la domination de la race aryenne. Multiples agressions envers les minorités. Incendie du Reichstag, symbole de la démocratie dans la République de Weimar. Un régime totalitaire qui prive les hommes de leur liberté fondamentale. Mesure qui entraîne la fuite des cerveaux comme Einstein et bien d'autres. Une idéologie raciste et impérialiste menace en définitive la paix. La France et le Royaume-Uni négocient la paix avec l'Allemagne lors des accords de Munich. Mais malheureusement, les accords de Munich s'avèrent un échec. Ainsi donc, la menace ou péril nazi se précise dans toute l'Europe.